Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes sur Radio Grand Ciel. Bienvenue dans l'émission Un livre, un auteur. Pascal Lereste à l'antenne, ethnologue et directeur de collection chez l'éditeur parisien L'Harmattan, pour vous servir. Un livre, un auteur, une émission mensuelle d'une heure pour découvrir l'univers d'un auteur autour d'un de ses livres. S'immerger pas à pas dans les représentations vécues de celui qui écrit, dans le monde qu'il active, qu'il met en mots, en musique. Telle est mon intention. Et pourquoi ? Mon but, vous donner envie de rentrer dans l'objet livre, en comprenant mieux les ambitions de celui qui écrit, les centres d'intérêt qui président à la construction de son ouvrage. Un livre, un auteur, reçoit un invité par mois et se concentre principalement sur des auteurs publiés chez L'Harmattan, plus grand éditeur indépendant de France. Ces auteurs seront parfois euréliens, parfois américains ou coréens. Bref, ils viendront de partout. Ce seront parfois des auteurs que j'ai pu publier, mais pas toujours. L'éclectisme est le signe de l'émission et les genres proposés iront de l'essai au roman, du récit de vie à la poésie. Une émission mensuelle, comme un rendez-vous pour une rencontre, une belle surprise. Une heure par mois pour être touché, ému, ou réfléchir et se surprendre à vouloir lire quelque chose d'enfin différent, le livre d'un auteur. Et aujourd'hui, nous recevons Catherine Servin pour son livre Sur les genoux de Khrouchtchev. Alors, Catherine Servin, bonjour.
Bonjour.
Alors, avec un titre comme ça, il y a déjà des tas d'interrogations qui affleurent. Alors, la première, peut-être pouvez-vous dire qui était Khrouchtchev ?
Ben, Khrouchtchev était le dirigeant de l'ex-Union soviétique à la mort de Staline jusqu'à l'avènement de Brejnev, si mes... Mes souvenirs de lecture sont bons.
Très bien. Alors, sur les genoux de Khrouchtchev, ça veut dire que vous avez été sur les genoux de Khrouchtchev ?
Je l'ai pensé longtemps. Je l'ai cru longtemps et je ne sais pas, en réalité, très bien, si j'ai réellement été sur les genoux de Khrouchtchev ou est-ce que c'était les genoux de Gagarine ou les genoux de mon père. Tout ça, c'est mélangé et c'est ce joyeux mélange, malgré l'histoire terrible du stalinisme et de l'Union soviétique. C'est ce joyeux mélange qui m'a intéressée.
Très bien. Alors là, nous sommes entrés tout de suite, sans aucun ménagement, sans aucune précaution oratoire dans votre roman. Alors, c'est un roman publié chez L'Harmattan dans la collection Ethnographique. Il faut avouer que j'en suis le directeur et que donc, Catherine, je te connais bien, on se connaît bien. C'est ta deuxième émission sur Radio Grand Ciel.
Oui.
Et donc, en fait, avec ce roman, tu récidives dans la collection sur une thématique dont j'ignorais tout avant que tu me fasses part de ce projet. Alors, pour faire comprendre un peu aux lecteurs de quoi il retourne, tu vas peut-être nous dire ce qu'il en est de ton enfance et dans quel type de milieu tu as vécu cette enfance.
Voilà, alors j'ai été élevée dans une famille communiste, de militants communistes et de dirigeants communistes. Mon père était membre de ce qu'on appelle toujours le bureau politique. Il était le secrétaire particulier de Maurice Thorez. Il est allé à plusieurs reprises en Union soviétique, en Chine. Voilà, c'était un haut cadre du parti du PCF à l'époque.
Alors à l'époque, tu peux nous préciser un peu les années ?
Oui, il a été dirigeant du parti communiste d'après la guerre de 48, on va dire, jusqu'à 1959-60, date à laquelle, au cours d'un congrès, j'en parle dans le livre, mais... il y a eu une disgrâce pour un désaccord politique comme c'était fréquemment le cas.
D'accord, donc en fait, tu es né, on peut le dire, on peut dire en quelle année tu es né?
On peut le dire, je suis né en 1960.
Très bien.
Donc moi, je suis né, si je puis dire, dans la disgrâce, dont je n'ai absolument pas, évidemment, puisque j'étais tout bébé, mais qui a marqué, bien sûr, mon éducation et toute cette éducation et ce milieu familial très particulier de dirigeants communistes, puisque ma mère était également une dirigeante communiste et une dirigeante d'une organisation féministe qui existait à l'intérieur du PCF à l'époque. Donc voilà, c'est ce bain éducatif. Et ce qui m'a intéressée, c'est non pas d'écrire un livre d'histoire sur le Parti communiste français, c'est pas du tout mon propos, mais c'est de raconter les traces, ce que cette éducation a produit sur moi. Parce que ça remonte aussi au grand-père, en réalité. Il y a eu mes parents et il y a eu aussi le grand-père qui était communiste allemand à l'époque.
Alors oui, alors peut-être que tu vas nous dire un mot sans trop non plus rentrer dans le livre, parce que là, c'est toi qui as évoqué ce grand-père, je ne pensais pas en parler. Alors, un grand-père
communiste allemand.
Et communiste.
Voilà, je n'en dirai pas plus, effectivement, mais il a contribué aussi à ce que j'appelle une mythologie familiale. Et ce que j'ai essayé de raconter dans le livre, c'est justement ce tissage entre l'intime et le militantisme. C'est un bain et une porosité dans laquelle j'ai vécu. Tout était politique et tout était en même temps intime. Il n'y avait pas du tout de séparation entre les deux, c'est une drôle d'éducation.
Et puis, c'est pas rien non plus, parce que au sortir de la guerre avec l'Allemagne, d'avoir ce grand-père allemand, c'est une histoire d'une complexité redoutable.
Oui, alors je ne sais pas jusqu'où je peux dire les choses, mais il était député communiste allemand, et bien sûr, à l'arrivée d'Hitler au pouvoir, il a fui l'Allemagne et s'est réfugié en France, et a été recherché par la police française et par la Gestapo, bien sûr, et a connu ma grand-mère et la mère de ma mère, et voilà. Donc c'était le grand-père allemand qui aussi, pour résumer très vite cette porosité qui me tient vraiment à cœur dans le livre, qui à Noël, voilà, Noël, les chants de Noël, c'était Mon beau sapin et l'international en allemand.
Bien, tout un programme. Alors, ce livre, il est intéressant parce que, évidemment, toi, quand tu es enfant, c'est plus Khrouchtchev vraiment qui est au pouvoir, c'est déjà Brejnev.
Oui.
Mais en fait, avec ce titre, tu nous fais rentrer aussi dans le monde symbolisé de l'enfance, tu nous fais rentrer dans des aspects un peu métaphoriques, et puis tu nous montres en fait que la réalité est toujours un peu composite. Il y a aussi les rêveries, tout est un petit peu comment dire, un peu masqué.
Oui.
Et ce qui explique donc ce titre.
Oui, 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 absolument. Le titre, il me semble, est un petit peu voilà, symbolise à lui seul ce mélange entre l'histoire et l'intime. Et c'est ce qui m'a intéressé. C'est ce qui m'a intéressé. Ce sont des souvenirs, certes, ancrés dans l'histoire, mais ce sont les souvenirs d'une enfant, d'une jeune fille et d'une femme plus tard, marquées, j'allais dire au fer rouge, mais c'est... mais en tout cas, marquées par cette histoire et par une éducation à la fois rigide, sectaire, stalinienne, on peut le dire, et en même temps... pleine de fantaisie et pleine d'ouverture d'esprit. C'est ça qui m'a intéressée et interpellée.
Alors là, tu dis marqué au fer rouge. Il faut dire pour les auditeurs qui ne voient pas la couverture de ton livre que ton livre a une couverture rouge. Donc voilà, on a tout de suite avec les couleurs la tonalité de ce dont il est question. Alors tu nous parles de Staline, mais là, avec un titre comme ça, il y a quelque chose de l'ordre de la tendresse, de l'amusement sur les genoux de Khrouchtchev. On imagine, un homme qui fait sauter l'enfant sur ses genoux, enfin quelque chose d'affectueux, d'affectif. Donc la question que je vais te poser, c'est quelle est... Alors, il y a une question en deux temps. 1. Quel est, toi, ton point de vue sur Khrouchtchev? Pourquoi, justement, il y a quelque chose de fantasmatique par rapport à Khrouchtchev? Et puis, deuxièmement, tu parles d'une enfance que tu qualifies de stalinienne, mais Khrouchtchev, c'est déjà autre chose par rapport à Staline. Il y a déjà, je dirais,
une ouverture.
Une marche qui est quand même franchie. Bon. Voilà, alors donc, déjà peut-être première question.
Alors la première question, c'est pourquoi... Alors,
ton rapport en fait à Khrouchtchev, qui...
Mon rapport à Khrouchtchev, il est effectivement particulier. D'abord, évidemment, j'étais toute petite, donc j'ai pas de souvenir direct de ça. Mais ça fait partie d'une mythologie familiale, à la fois ancrée dans l'histoire, puisque mon père a été envoyé au moment du 20e congrès du Parti communiste de l'ex-Union soviétique et du fameux rapport Khrouchtchev qui a entamé la déstalinisation. Mon père avait été envoyé là-bas et est revenu en France en étant, de ce que l'on racontait à la maison, en étant fou de joie de voir qu'enfin ça allait s'ouvrir, enfin Staline s'était terminé, le stalinisme, et que voilà, c'était un porteur d'espoir, Khrouchtchev. Et ça a été aussi un des premiers désaccords de mon père avec la direction du Parti communiste français de l'époque, parce que lui voulait que cette déstalinisation s'applique dans le Parti communiste français, ce qui n'a pas eu lieu. Et c'est entre autres aussi pour ça qu'il a été évincé. Mais ça, c'est la partie histoire. Moi, ce que j'en ai entendu et ce que j'en ai retenu, c'est que finalement, mon père était l'ami et le copain de Khrouchtchev. Et c'était pour moi extraordinaire, voilà. Et voilà, mon père était un symbole de... Mon père a toujours été héroïsé, ça aussi, j'en parle dans le livre, par ma mère en particulier. Et donc, on a été élevés aussi dans ce culte. Alors, ce n'était pas le culte de la personnalité de Khrouchtchev, c'était peut-être le culte de la personnalité de mon père, dans cette idée que mon père avait raison. Voilà, mon père avait raison, mon père avait vu les choses avant les autres, avant, voilà. Et pour une petite fille, je trouve ça extraordinaire que son père ait raison avant les autres.
C'est vrai que c'est une... Tu as tout à l'heure employé le mot d'ouverture. Khrouchtchev, si je ne m'abuse, c'est lui qui a demandé à Solzhenitsyn le livre « Une journée » d'Alexandre Denisovitch.
Ouais, hein, ouais.
Donc oui, c'était et ce livre qui est un véritable brûlot ne fait pas la part belle donc à la tradition stalinienne.
Oui, du tout, hein. Du tout.
Alors donc on peut comprendre effectivement tout ce que tu viens de nous évoquer. Ensuite, tu parles de ton père, donc peut-être effectivement que c'est sur les genoux de ton père en fait.
C'est possible.
Hein, que tu.
C'est possible. Il y a un mélange et c'est ça qui m'intéresse aussi. C'est pas tellement. Ce n'est pas une biographie, c'est pas une autobiographie. C'est un roman parce que c'est une autofiction effectivement. Parce que je tricote des choses avec les souvenirs, avec les impressions que j'ai eues. C'est un tricotage d'une intimité d'un enfant au milieu de cette famille communiste ponctuée de distribution de tracts qu'il faut plier quand je suis toute petite et qu'il faut plier correctement, de réunions où je m'endors sur les genoux de ma mère en écoutant mon père, où j'entends les applaudissements que la salle fait, les ovations parfois à mon père, les fêtes de l'UMA où je suis trimballée. Voilà, c'est tout ce substrat, tout ce terreau que j'ai interrogé, que je convoque, et qui est effectivement, plein d'anecdotes, plein d'anecdotes.
On va en parler. Ce que je trouve très intéressant dans ton livre, c'est que tu nous ramènes en arrière, à l'époque des années 60, où en fait, finalement, je dirais, il y a globalement deux univers. Il y a celui des communistes, et celui des catholiques. Et en fait, les ritualités sont très fortes. Chez les catholiques, tout le monde va à la messe. Moi, j'étais de cet univers-là, où mes parents m'emmenaient à la messe. C'était pas du tout un sujet... C'était pas un sujet. C'était comme ça. Tous les dimanches matins, on allait à la messe. Et puis, il y avait un autre monde qu'on côtoyait à la sortie de la messe, sur le marché. C'était les communistes qui vendaient l'UMA. Et bon, finalement, c'était un peu des ennemis qui étaient en rivalité mimétique, comme ça, mais avec des manières de faire assez proches, assez identiques. avec des traditions, des rituels qui étaient aussi très sécurisants.
Oui, oui, sans aucun doute, c'était des cadres forts, que ce soit le cadre religieux ou le cadre communiste, étaient deux cadres forts. Je crois au début du livre, quand je parle de la fête de l'Huma, que la fête de l'Huma est une kermesse pour certains, pour beaucoup, et une messe pour d'autres.
Ouais.
Mes parents, c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que les communistes ne sont pas forcément des monolithiques. Beaucoup le sont et l'ont été, mais mes parents, par exemple, n'ont jamais été athées et nous ont élevés de cette façon, mais n'ont jamais été anti-catholiques ou anti-religieux. Et je me souviens de réunions à la maison petite avec des prêtres ouvriers, en Lorraine en particulier, dans ce bassin minier que j'évoque aussi. Donc il y a toujours eu beaucoup de respect pour l'engagement, en fait. À partir du moment où on est au service de ceux qui souffrent, et les prêtres ouvriers l'étaient, et voilà, il y avait tout ça travaillait ensemble.
On va parler des prêtres ouvriers. On va d'abord faire une pause musicale et on se retrouve tout de suite après. Vous êtes bien sur Radio Grand Ciel avec Pascal Leres dans l'émission Un livre, un auteur qui reçoit aujourd'hui Catherine Servin pour son livre Sur les genoux de Khrouchtchev. Alors, tu viens de nous évoquer, Catherine, la question des prêtres ouvriers et du rapport avec les cellules ou les cellules communistes en Lorraine, par exemple. Alors, est-ce que tu peux nous dire un mot, quels étaient les rapports et qu'est-ce que vous faisiez ensemble ?
Je ne sais pas, moi j'étais toute petite, mais je sais qu'il y avait des réunions communes à la maison et qu'il y avait dans une solidarité au moment des grandes grèves des mineurs, les prêtres ouvriers étaient là, quand il fallait justement, j'ai ce souvenir des femmes des mineurs italiennes qui préparaient des marmites de pâtes pour les grévistes. Et les prêtres ouvriers étaient là aussi, avec... moi j'ai ces souvenirs-là.
Ok, c'est quelle année, quelle époque ?
Peut-être 65, 66,
d'accord.
Quelque chose comme ça, dans d'accord. Ces années-là.
Okay.
Moi je suis petite, oui.
Donc là, vous êtes en Lorraine déjà.
On est en Lorraine, oui.
Donc tu quittes Paris avec ta famille.
Oui, en 62, je crois.
En 62, oui, donc t'es toute petite.
Toute petite.
Quoi. Vous allez en Lorraine, c'est le début déjà des fermetures des mines.
Pas encore.
Pas encore.
Pas encore.
Mais il y en est question.
Oui, mes parents, enfin mon père est envoyé là-bas, justement parce qu'à la suite de ce désaccord politique, il est exclu du bureau politique de la direction du Parti communiste. Et comme on disait à l'époque dans le jargon, on le renvoie à la base, sur le terrain, pour c'était le remonter la classe ouvrière.
D'accord.
Voilà. Et donc moi, c'était
le goulag à la française.
C'était quoi. Ma mère disait, on a envoyé ton père en Sibérie française.
Ah, c'est ça. Donc,
parce qu'en plus, disait ma mère, il fait trop froid là-bas. C'est la Sibérie française. Et D'accord. donc nous partons là-bas, oui.
Ok. Alors, quand même, ce que tu fais dans ce livre, c'est un témoignage d'amour pour ton père. Parce qu'en fait, il part là-bas, il se consacre corps et âme. Donc, pour les ouvriers, pour les gens les plus démunis, il est complètement investi.
Oui, on peut lire ce livre comme un hommage. Oui, comme un hommage à l'engagement politique de mes parents. Ça, c'est certain. Et en même temps, il me semble à un moment dans le livre que j'évoque aussi les sacrifices, qui étaient des sacrifices consentis, hein, mais qui ont quand même abîmé certaines choses dans notre éducation. Je dis notre parce que j'ai un frère plus âgé que moi, où on a quand même été... ça fabrique une résilience hein, aussi, c'est ce qui n'est pas... ce qui n'est pas inintéressant, mais on a été beaucoup gardés, beaucoup trimballés, beaucoup parce que mes parents édifiaient le socialisme. Donc, forcément, notre éducation ne pouvait que bien se passer dans leur esprit, mais on a été gardés, trimballés, pas délaissés. Mais voilà, il n'y avait pas toujours les rendez-vous auxquels on aurait pu s'attendre. Mais voilà, c'est passé, parce que tout... tout se pliait à cet idéal. Mes parents faisaient la révolution. Et finalement, j'ai été élevée avec des parents qui, dans mon imaginaire, en tout cas, fabriquaient un monde nouveau et fabriquaient un homme nouveau, puisqu'on disait ça, hein, on fabrique un homme nouveau, on fabrique un monde nouveau et on va mettre fin à la misère. Être élevée là-dedans, c'est fabuleux, quand même.
Alors, donc, ton père... assiste à beaucoup de réunions, il fume beaucoup, il a quand même beaucoup de stress et ça va être pénalisant pour lui. Il va décéder jeune.
Oui, il décède à 50 ans.
50 ans, donc en quelle année ?
68.
En 68. Donc toi, tu as 8 ans.
Oui.
Tu es toute petite encore.
Toute petite.
Et donc ta maman se retrouve toute seule.
Oui.
Et donc elle reste en Lorraine ?
Elle reste en Lorraine jusqu'en 70. Et en 70, elle décide de déménager, avec nous bien sûr, et d'aller dans le sud-ouest, dans la région d'Arcachon. Parce que, disait-elle, c'est là où ils avaient fait leur voyage de noces, et donc c'était un lieu pour elle très affectif, bien sûr. Et voilà, elle décide de déménager, et c'est pour ça que nous sommes arrivés dans le sud-ouest après.
Et ta maman, pour vivre, elle fait quoi ?
Elle travaille à l'état civil, elle travaille fonctionnaire dans une mairie. L'argent coule pas à flot du tout à la maison. Heureusement, mon père avait été député, donc elle a une petite pension de l'Assemblée nationale à l'époque. Et elle continue à militer là-bas, dans le sud-ouest. Et c'est reparti, réunion de cellules, distribution de tracts à la sortie des usines là-bas. Il y en avait moins, mais il y en avait quelques-unes quand même. Des usines de bateaux de plaisance en particulier. Voilà, donc c'est reparti pour le militantisme sans mon père.
Et ta maman, comment elle a vécu ça ? Parce que c'est un peu une descente aux enfers quand même. On a un père qui est député, qui aspire aux plus hautes fonctions... du parti politique qui peut avoir un destin national et qui se retrouve du jour au lendemain relégué comme ça aux marges de la société. Comment ta maman elle a vécu ça ?
Avec peu d'amertume, étrangement. Avec peu d'amertume, c'est-à-dire c'est quand même aussi, c'était peut-être une génération la sienne, ayant connu la guerre, etc. Il y a une notion de sacrifice. Et cette notion de sacrifice qui est peut-être générationnelle, mais elle est aussi liée à cet engagement politique. C'est-à-dire qu'on se sacrifie pour le parti, de toute façon. Même si on sait que le parti, là, se trompe, que ce soit sur des événements comme la Tchécoslovaquie, etc. On sait que le parti se trompe, mais on n'abandonne pas. On n'abandonne pas le parti et on combat à l'intérieur. Cette idée d'intérieur était toujours... On ne quitte pas le parti. Voilà, donc pour ma mère, oui, le parti avait eu tort, mais l'histoire donnera raison à ton père. C'est toujours ce que j'ai entendu. Donc il y a une, je le dis dans le livre, il y a une déification de mon père. Voilà, et ma mère disait, je mets dans le livre certaines phrases sous forme de mantra, ma mère disait, je ne me remarierai pas. Ça, c'est très important pour une petite fille, cette phrase. Je ne me remarierai pas parce qu'avec ton père, j'ai connu Dieu et je ne vais pas m'emmerder avec les apôtres.
Oui, en fait...
Il fallait que je me débrouille avec cette phrase.
Oui, c'est quelque chose, oui. Oui, et oui, ta mère est une grande amoureuse, en fait.
Oui, hein. C'était un couple très, très amoureux,
ouais. Donc, ta maman se retrouve avec ses deux enfants à Arcachon. Et pour toi, ça change quoi de passer de la Lorraine à Arcachon, t'as 8 ans ?
Ce qui change, c'est que je n'ai plus mon père. En dehors de ça, mon enfance et mon adolescence continuent. Non, ça ne change pas grand-chose. Ça ne change pas grand-chose.
D'accord. Pour ta maman, ça change plein de choses. Elle quitte la Sibérie française pour aller, oui. En tout cas, sur le...
Moi, je suis ravie parce que je suis persuadée qu'on va aller à la plage tous les jours.
D'accord.
C'est tout.
Ok.
Quand elle nous l'apprend, je suis ravie, on va aller à la plage tous les jours et la vie continue.
Ok. Ta maman est toujours vivante ?
Elle est toujours vivante, oui, elle est dans une maison de retraite. Elle a un Alzheimer maintenant, elle m'a dit d'Alzheimer.
D'accord. Elle a lu le livre, non ?
Non, non, non.
Ok.
Cette période-là est terminée.
Très bien, on fait une courte pause musicale et on se retrouve juste après. Vous êtes sur Radio Grand Ciel avec Pascal Lerest dans l'émission Un livre, un auteur qui reçoit Catherine Servin pour son livre Sur les genoux de Khrouchtchev. Alors, on a parlé de tes parents. Ton frère et toi, est-ce que vous êtes vous aussi communiste? Est-ce que vous l'avez été et est-ce que vous le serez?
Alors, moi, je l'ai été très longtemps, puisque je l'ai été de mes 17 ans jusqu'à il y a 4 ans. Et mon frère l'est toujours.
D'accord. Quand tu dis tu l'as été, tu étais encarté.
Oui, absolument. Oui.
D'accord.
J'ai milité longtemps et milité aussi avec mes fils, avec mes enfants, que j'ai aussi trimballé en reproduisant un petit schéma parental vaguement présent.
Et si ce n'est pas indiscret, tu n'es pas obligé de répondre, donc pour quelles raisons tu n'es plus encarté?
Pour des désaccords qui datent d'un certain nombre d'années maintenant, et aussi parce que je pense que ce n'est plus que l'idée est toujours juste, que c'est une utopie, et que comme toutes les utopies, elles sont indispensables. Mais qu'il y a un appareil qui n'est plus adapté, à mon avis, qui essaie de s'adapter, mais qui me satisfait plus, dans lequel je ne me retrouve plus.
Ok. Ça correspond avec le changement, non? Il y a eu, c'était Marie-Hélène Buffet, c'est ça?
Ouais, non, j'ai pas vu de coïncidence particulière. Il n'y a pas eu d'événement déclencheur, si c'est ça ta question. Non, c'est juste l'aboutissement d'une réflexion personnelle.
Très bien. Alors, quand tu parles comme ça de cette tradition communiste, de ce que tu as vécu, quelle différence avec le monde des catholiques? Finalement, tout ce qui est de l'ordre des sentiments ou des intentions ou d'intervenir pour le bien commun et pour aider les plus faibles, les plus fragiles ou les plus pauvres, je ne vois pas beaucoup de différence.
Il y a beaucoup de points communs, beaucoup plus qu'on ne pense. Et il y a beaucoup de catholiques qui sont membres du parti, enfin qui étaient, maintenant je ne sais plus très bien, mais il y avait beaucoup de catholiques. De chrétiens qui étaient membres du Parti communiste, en Lorraine en particulier, avec beaucoup de mineurs italiens et polonais, une immigration italienne et polonaise importante, qui étaient et qui allaient à la messe, et où il n'y avait pas de contradiction à aller à la messe, puis à la réunion de cellules, ou à la réunion de cellules, puis à la messe derrière.
D'accord. Alors moi, je suis d'origine bretonne. Alors en Bretagne, quand j'étais petit, moi je suis né en 62, il y avait vraiment deux mondes distincts. Hein, et les communistes, c'était des diablotins. Hein, c'était vraiment l'engeance du mal.
Et ça, je ne l'ai pas ressenti, si ce n'est à l'école, où effectivement en Lorraine et en Alsace, il y a ce qu'on appelle le concordat. J'en parle dans mon livre, alors ce n'est pas... où là, le curé venait faire des cours de catéchisme dans l'école publique, dans l'école laïque. Oui. Et où mes parents me disaient, toute petite, que quand je voyais le curé arriver, je devais quitter la classe. Et parce que, voilà, il n'était pas question que j'assiste à un cours de catéchisme. C'était la seule fracture, je dirais, que moi, j'ai ressentie. Donc la maîtresse était au courant, mais moi je n'avais pas du tout envie de quitter l'école parce que quand je revenais après le cours de catéchisme, au tableau il y avait des dessins extraordinaires que le curé avait fait, d'anges à la craie sur ce grand tableau noir, et j'avais le sentiment de louper quelque chose vraiment de magnifique. Et je me souviens juste de la maîtresse, donc c'est moins mes parents que peut-être... La maîtresse républicaine, on dirait, qui effaçait très très vite les dessins du curé pour reprendre ses leçons. Mais non, pour moi, c'était un bel imaginaire aussi, un bel imaginaire.
Donc en fait, pour toi, il y a peu de différence finalement au niveau des... au niveau des représentations comme ça en matière de...
Moi, ce que je trouve intéressant dans la religion catholique, c'est qu'il y a un altruisme dans la religion chrétienne aussi, dans d'autres peut-être, mais je les connais moins bien. Donc, je n'ai pas l'impression qu'il y a une fracture importante. La fracture, elle est peut-être d'ordre aujourd'hui, d'ordre moral, enfin, ou dans les mœurs peut-être, sur l'acceptation de l'homosexualité, du préservatif, de l'avortement, etc. Là, il y a une fracture aujourd'hui. À l'époque, cette fracture-là était minorée, déjà parce que le Parti communiste avait lui-même des positions extrêmement sectaires et rigides là-dessus, qui se sont heureusement assouplies considérablement, alors que peut-être que l'Église, elle est restée plus campée sur ces points-là.
Mmh. Et alors, ce que j'ai trouvé intéressant aussi dans ce livre, c'est que tu donnes une vision du communisme qui est un peu aux antipodes de l'image qu'on peut en avoir aujourd'hui quand on parle des exactions en Chine ou quand on parle des goulags en URSS, enfin dans l'ex-URSS ou même encore de certaines pratiques aujourd'hui en Russie. Donc est-ce qu'il y a un communisme à la française ou est-ce qu'il y a un communisme européen qui est particulier, et est-ce que quand on parle du communisme, il n'y a pas une forme d'abus de langage à penser que finalement il serait le même quelle que soit la région du monde?
Je vais reprendre alors ton parallèle entre la religion catholique et le communisme. Il y a aussi des catholiques et des catholicismes sans doute, en fonction des pays, des cultures, des traditions. Et je pense qu'il y a des partis communistes et des communismes différents. Et heureusement. Oui, communisme européen peut-être, oui, même si je ne sais pas maintenant ce que ça veut dire. Maintenant, c'est très... tout est bouleversé, bien sûr, depuis la chute de l'ex-Union soviétique. Chute que j'évoque aussi dans mon livre, qui pour ma mère a été, parce que mon père était décédé, pour ma mère a été un événement terrible, bien sûr, un écroulement très très important, et mon grand-père encore plus.
Alors du coup, le communisme pour demain, comment vois-tu et y a-t-il un communisme pour demain quand on voit les chiffres aujourd'hui en termes d'adhésion ou en termes de vote aux élections présidentielles?
Moi je pense de plus en plus que le communisme est une utopie, donc ce n'est pas un système gouvernemental, c'est pas fait pour être au pouvoir, je crois. C'est fait comme un point de mire pour avancer, c'est fait pour nous tirer vers quelque chose, comme toutes les utopies. Donc c'est fondamental, comme le rêve est indispensable, l'utopie l'est tout autant, je crois. Donc pour moi, c'est pas grave, en fait. Le communisme est un partage, un but. Il y a des idées extrêmement généreuses et intéressantes et d'actualité, je trouve. Je dis pas que le mouvement des Gilets jaunes, mais je l'évoque aussi un petit peu. Mais cette idée de partage, ne serait-ce qu'une idée basique, mais un partage des richesses est quand même une idée que le communisme normalement porte et a porté dans toujours, qui ne s'est pas du tout fait dans les pays dits communistes et les démocraties dites populaires, comme on disait à l'époque, qui n'étaient ni démocratiques ni populaires. Mais donc il y a des idées, oui, il y a des idées. Donc pour moi, ce n'est pas grave du tout, les chiffres, voilà. Comme l'utopie dans les textes, les récits d'utopie en littérature, ça ne se concrétisera jamais, mais ce n'est pas fait pour ça, une utopie. Ce n'est pas fait pour exister, en fait. C'est fait pour vivre. Ça, c'est vrai.
Et tu as eu l'occasion de voyager dans des pays communistes, je pense à Cuba ou à certains pays d'Europe de l'Est avant la chute du mur ou aujourd'hui encore.
Oui, alors justement, dans le livre, j'évoque un souvenir d'adolescence où ma mère m'a emmenée en ex-Union soviétique, donc. Elle était avec d'autres dirigeants. Et moi, j'étais dans un camp, on appelait ça les camps Spoutnik, avec tous les communistes, tous les jeunes communistes de tous les pays, avec les levées de drapeaux, le salut à Lénine. C'était une expérience très, très intéressante. Et ça a été peut-être ma première prise de conscience d'une idéologie qui n'allait pas. Il y a quelque chose qui n'allait pas. Là, j'ai réalisé que ce pays était en contradiction avec tout ce que je pouvais entendre aussi. C'était peut-être la première fois où j'ai remis en question le discours familial.
Peut-être que tu peux aller un peu plus loin, là, parce que c'est vraiment intéressant, là, c'est les anecdotes que tu évoques avec ce garçon, notamment. Tu lui parles de, de, de choses qui sont assez abstraites, et finalement, lui, il te parle concrètement de ce qui lui manque, hein, en quelque sorte, quoi.
Oui, c'est-à-dire que moi, je suis arrivée avec tout mon bagage et mes valises familiales, idéologiques, c'est-à-dire que j'étais persuadée de débarquer dans un monde nouveau, où toutes les richesses étaient partagées, où tout le monde était heureux, et où tout se passait bien, et on avait... voilà, et je suis arrivée dans un pays où j'ai trouvé des gens, des jeunes gens, puisque j'avais 16 ans et j'étais dans des chambres avec des jeunes filles qui avaient mon âge, qui étaient avides de consommation, avides de produits occidentaux, c'est-à-dire que tout ce que moi je critiquais et je décriais, elles étaient avides de ces marques-là, de cette consommation-là, alors que nous étions en train de critiquer cette société de consommation. Donc ça a été une première fracture. La deuxième a été que dans les discussions, elle me demandait de ne surtout pas répéter les discussions qu'on avait ensemble. Et puis, dans mes 16 ans aussi, et dans ce voyage en Union soviétique, j'ai découvert, non pas l'amour, mais j'ai fréquenté un jeune soviétique qui n'était intéressé que par les cassettes de rock, qui me demandait si je pouvais lui fournir des cassettes de Santana ou d'autres groupes rock, parce qu'il n'y avait pas accès. Et moi, je voulais simplement qu'il me raconte comment c'était ce monde nouveau qu'ils avaient bâti. Et j'ai commencé à comprendre qu'ils ne bâtissaient rien du tout en réalité, si ce n'est des frustrations et des peurs.
Enfin, c'est intéressant aussi parce que la dimension fantasmatique, elle est de tous les côtés, en fait.
Hein. Tout à
elle,
fait, oui.
Peut-être que ce jeune aurait pu écrire sur les genoux de Bill Gates ou, ou quelque chose d'analogue.
C'est possible,
quoi.
Oui. C'est
donc,
possible.
Bon, donc en tout cas cette anecdote, elle est intéressante parce que... Elle montre aussi qu'on se construit sur le manque.
Oui.
Et qu'on n'est pas toujours conscient de ce dont on dispose.
On se construit sur l'imaginaire et le manque, je crois, beaucoup. Oui, oui. On se construit sans doute plus sur des mythologies familiales que sur des faits historiques bruts, secs. Je crois que tout ce qui s'est dit autour dans cette éducation... et tout ce que j'ai moi tricoté, voilà, ça a été très très important. Oui, on se construit sur des manques, des absences, des fantasmes et de l'imaginaire.
Et ce livre, t'as pu l'écrire parce que tu as cessé en fait d'appartenir au Parti communiste, ou en fait c'était de toute façon un projet que tu avais?
Non, c'est pas lié du tout au fait que j'ai quitté le Parti communiste. Non, c'était un projet que j'avais. J'avais envie d'écrire justement d'entrecroiser l'histoire et l'intime, d'entrecroiser, d'écrire cette porosité là qui m'intéressait beaucoup.
Et alors le choix professionnel qui a consisté à devenir professeur en lycée, est-ce que c'est lié à ses convictions? Est-ce que l'idée c'était aussi de transmettre, de partager, de promouvoir les jeunes?
Ouais, sans doute, sans doute. Il y a l'idée d'une transmission. Oui, sans aucun doute, sans aucun doute. Pourquoi la littérature? Pourquoi prof de lettres après? Ça, je ne sais pas, mais je dis quand même dans le livre que sans doute d'être élevé aussi au milieu de slogans, de titres pour les affiches, de slogans pour les manifs, de slogans pour les banderoles, où on cherche souvent des rimes ou des... Il y a eu une musique dans laquelle j'ai été élevée qui a peut-être, ça c'est mystérieux toujours, les choix que l'on fait après, mais qui n'a peut-être pas été innocent.
Très bien, nous faisons une pause musicale et ensuite nous aborderons la rubrique des livres du mois. Vous êtes bien sur Radio Grand Ciel avec Pascal Le Reste dans l'émission Un livre, un auteur. Et nous abordons maintenant la rubrique des livres du mois. Avec pour premier livre, un ouvrage de Laurent Bérec, donc collection Horizon, donc avec un titre Paul Illig, de Cloix à Auschwitz. Alors, Laurent Bérec est quelqu'un qui appartient à la famille de Paul Illig. Paul Illig, qui était donc un juif vivant à Cloix-sur-le-Loir, quelqu'un qui était extrêmement bien intégré à la ville, à la communauté, dont la famille, en fait, était installée totalement, avec plusieurs branches. Et en fait, Laurent Bérec nous montre comment l'identité juive, en fait, apparaît à la faveur de la guerre, et comment des gens qui n'ont pas le sentiment de l'être apprennent qu'ils le sont réellement, et comment ils se retrouvent du jour au lendemain parqués au camp de Beaune-la-Rolande, et comment ils vont ensuite être acheminés jusqu'à Auschwitz, où ils disparaîtront. C'est un très bel hommage à Paul Illig, qui est un personnage important de Cloix-sur-le-Loir, qui a donné d'ailleurs son nom à tout le parc sportif de Cloix, et qui était également l'entraîneur de l'équipe de football avant la Seconde Guerre mondiale, qui a obtenu beaucoup de résultats. C'était quelqu'un qui est encore ancré dans la mémoire locale. Donc, j'en redis le titre, Paul Illig, de Cloix à Auschwitz, de Laurent Bérec, collection Horizon. Un deuxième ouvrage d'Arlette Bouet, L'Edgarde de Vermandois, une grande dame du Xe siècle, donc publié par la Société archéologique d'Eure-et-Loir. J'en parlais tout à l'heure durant le repas avec Catherine Servin. Donc c'est un livre extrêmement documenté, très fouillé, très technique aussi. Il faut rentrer dans la lecture, il y a beaucoup d'archives, d'éléments d'archives. Mais c'est vraiment un livre fantastique sur celle qui est devenue l'épouse du premier comte de Chartres, qui était également comte de Blois, donc Thibaut le Tricheur, et qui auparavant avait été l'épouse de Guillaume Longuepée, le fils du premier duc de Normandie, Roland, le grand viking. Donc c'est une femme au cœur de l'histoire, hein, parce qu'elle a été donc mariée à deux grands personnages de la monarchie de l'époque, et qui a eu une descendance fabuleuse. Nous en parlions tout à l'heure à table, hein. Elle est l'arrière-arrière-arrière-grand-mère d'Aliénor d'Aquitaine, par exemple, qui a été deux fois reine de France et d'Angleterre. Voilà, il faut vraiment lire ce livre, il est fantastique, et pour tous ceux qui s'interrogent sur l'Eure-et-Loir, qui veulent savoir un petit peu d'où les choses viennent, les noms des abbayes, des églises, etc., eh bien, je recommande la lecture de ce livre d'Arlette Bouet, L'Edgarde de Vermandois, une grande dame du Xe siècle, publié par la Société archéologique d'Eure-et-Loir. Un troisième livre, on va faire un bond dans l'exotisme, donc de Sandrine Garbuglia, donc chez L'Armatan, dans la collection Miroir du réel, Histoire tombée d'un éventail, conte traditionnel humoristique japonais, répertoire du Rakugo. Donc, voilà, pour ceux qui veulent voyager sans prendre l'avion, eh bien, je recommande cette lecture. C'est assez truculent. Et puis, voilà, on a accès à des textes qui sont pleins d'humour, d'humour japonais, bien sûr. Donc, c'est subtil. Donc, Histoire tombée d'un éventail, conte traditionnel humoristique japonais de Sandrine Garbuglia. Et enfin, un dernier livre, c'est un recueil de nouvelles de Marion Milo qui s'intitule L'innocence, publié chez L'Armatan. Donc un petit ouvrage qui fait à peine 100 pages et qui est très bien écrit. C'est facile d'accès et c'est vraiment un très bon livre. Marion Milot, L'innocence, publié chez L'Harmattan, un livre de 2019. Vous êtes bien sur Radio Grand Ciel avec Pascal Lerest qui reçoit aujourd'hui Catherine Servin pour son livre sur les genoux de Khrouchtchev. Alors, sur les genoux de Khrouchtchev, ça évoque aussi les questions de pesanteur, d'apesanteur et il y a beaucoup à en dire, je crois, Catherine.
Oui, parce que quand on est effectivement une petite fille et qu'on pense être ou qu'on a peut-être été sur les genoux de Khrouchtchev, on ne touche bien sûr pas terre, les pieds ne touchent pas le sol. Et c'est une impression que j'ai souvent eue, cette enfant, d'écouter les discussions de mes parents ou d'assister au pliage des tracts sur la table de la cuisine, où mes parents recherchaient des slogans pour les manifs, pour les banderoles, et d'entendre avec mes pieds qui balançaient comme ça sans toucher le sol, je cherchais moi à rythmer, j'entendais cette musique. Et j'ai été frappée après par cette histoire de cette idée d'apesanteur que j'ai après liée à l'utopie. Je crois que peut-être l'utopie est quelque chose qui est hors sol, peut-être. Voilà. Et je peux peut-être illustrer cette idée très rapidement.
Avec une lecture ?
Avec une lecture d'un extrait, d'un bref extrait.
Allons-y.
Dans une famille communiste du XXe siècle, l'utopie se parle quotidiennement, souvent lors des repas. Quand assise au bout de la table en formica jaune, mes pieds ne touchaient pas encore le sol. Je les balançais d'avant en arrière, en m'efforçant de suivre le rythme des mots entendus. Mes jambes scandaient le monde meilleur qui était en train de naître grâce à mes parents. Le bonheur n'était donc pas terrestre. Mieux, il se situait légèrement hors sol, dans cet interstice entre éther et humus, fragile. Voilà. Cette idée d'apesanteur qui a, je crois, été très importante pour moi, plus tard également.
Et alors, d'autant plus que si tu n'as pas été sur les genoux de Khrouchtchev, tu as été sur les genoux de Gagarine.
Voilà, parce que Gagarine est venu, le cosmonaute, donc le célèbre, je crois que c'était le premier voyage humain dans l'espace.
Ah oui, c'est le premier, oui.
Voilà.
Yuri Gagarine.
Yuri Gagarine. Il était venu donc en Lorraine où nous habitions. Et mon père, je crois que mes parents l'avaient reçu à la maison. Ma mère le trouvait très beau. Et il m'avait pris sur ses genoux. Ça, j'en suis sûre. Et mes pieds ne touchaient toujours pas le sol. Donc, il y a un fil aussi dans ce livre, je crois, de cette apesanteur et de cette enfance où mes parents construisent ce qu'ils pensent être un monde meilleur. Et qui, pour moi, est lié à une idée d'apesanteur. Et j'ai été, oui, sur les genoux de Gagarine.
C'est quand même incroyable, ça.
Oui, oui, oui.
Alors, Gagarine, on peut situer, je crois, c'est 57, c'est, non c'est,
non,
57, c'est le premier vol.
Non,
et lui,
je crois
c'est
que c'est
60,
67, 6, quelque
66,
chose comme
67,
ça.
C'est avant
crois.
Apollo, c'est ça. C'est
ouais,
avant les
crois.
Premiers vols Apollo.
Oui, 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 puisque c'était la compétition, la guerre froide.
C'est ça,
par
voilà.
Le biais de la compétition des voyages dans l'espace, oui.
Ouais.
Il avait fait une tournée en France avec beaucoup de... Il était très, évidemment, très, très acclamé. Et il était venu à la maison, ça je me souviens. Je me souviens juste, ça je ne l'ai pas écrit, que j'étais très déçue qu'il ne soit pas habillé en cosmonaute.
Ah oui, bien sûr.
Évidemment.
Il était ni casqué, ni
il
masqué.
Il était en uniforme. Il était en uniforme avec toutes ses médailles, comme dans l'ex-Union soviétique, là, bardée de médailles. Mais pas en tenue de cosmonaute, malheureusement.
Très bien. Alors, donc tu as un projet d'écriture à venir.
Oui.
Pendant donc la pandémie de coronavirus, comme tout le monde, tu as été confiné.
Oui.
Et donc, tu m'as suggéré d'écrire un journal au quotidien. Sur les ressentis, on peut dire sur,
oui, c'est sur l'expérience vécue. Alors, ça peut paraître... c'est une sorte de journal. J'appellerais peut-être plutôt ça un voyage, même si c'est vrai qu'il est ponctué de façon... Mais pas de façon linéaire. C'est, comment se vit un confinement dans un couple. Qu'est-ce qui se dit dans un couple? Qu'est-ce qui se dit dans cet enfermement contraint et pas choisi du tout? Avec une heure de promenade autorisée. Voilà, toutes ces relations entre le couple confiné et l'extérieur, quelles sont les perceptions. Voilà, c'est un voyage dans l'intimité d'un couple confiné, dans sa relation, dans ses relations au monde, parce qu'évidemment que quand on est enfermé et confiné, les relations au monde ne sont plus les mêmes, forcément. Donc toutes ces pièces de puzzle qui bougent, et puis il y a des retours en arrière, bien sûr, des pas vers le futur aussi. Voilà, c'est un voyage dans ce confinement si particulier et j'espère, expérience unique.
Oui, alors déjà, je peux dire aux auditeurs que c'est un ouvrage extrêmement intéressant, avec beaucoup de sensibilité, d'émotion, comme tu es capable de les retranscrire. Et en même temps, très, très intéressant parce que tu introspectes toutes les dimensions, en fait, des contenus qui ont été ceux devant lesquels on n'a pas pu échapper, à savoir le stress, la peur,
les courses,
les courses,
l'intimité aussi d'un couple dans cette atmosphère quand même très anxiogène et très morbide.
Et puis le fait aussi de recréer les conditions de nouvelles activités ou la poursuite d'activités, mais qui peuvent plus se faire sous les mêmes conditions. Voilà, donc c'est vraiment intéressant et ce livre est à paraître très prochainement.
Très prochainement,
et
oui.
Évidemment, quand il sera paru, eh bien, nous ne manquerons pas de t'inviter pour en parler ici sur Radio Grand Ciel.
Merci.
Merci à toi, Catherine.
Merci beaucoup.
Au mois prochain pour une nouvelle émission concernant cette fois une revue VST, vie sociale et traitement. Donc, un grand merci aussi à Simon Martin à la technique et au mois prochain, à bientôt.
Merci beaucoup.